Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. Il est 11h30 en temps universel, midi et demi à Cotonou.
RFI midi, Anne Contner.
RFI midi, 2 heures ensemble avec nos correspondants et avec nos envoyés spéciaux pour faire le tour de l'actualité dans le monde. À la une, ce vendredi 10 janvier, le choc et des questions au Bénin au lendemain d'une attaque contre des militaires dans le nord du pays. 28 morts. C'est le bilan le plus lourd depuis le début des incursions djihadistes dans la région à la frontière avec le Burkina Faso et le Niger. Nous appellerons notre correspondant dans Afrique Midi à midi et demi temps universel. Nous irons aussi à Caracas où Nicolas Maduro doit prêter serment tout à l'heure pour un troisième mandat. L'opposition conteste toujours sa réélection, elle l'a dit dans la rue hier. Et les militants espèrent encore voir leur candidat Edmundo González Urrutia rentrer au pays pour faire pression sur le pouvoir.
Je suis dans l'expectative, mais je sens que quelque chose de positif est à venir.
Ce gouvernement va tomber, on y travaille. Peut-être pas demain, mais bientôt. Et on va se charger d'être dans la rue tous les jours.
Nous serons en ligne avec notre correspondante juste après le journal de 13h, temps universel. Et avant cela, dans trois quarts d'heure, nous verrons avec notre invité ce qu'il reste de l'opposition au Venezuela. Et nous nous demanderons si les pressions peuvent avoir un quelconque effet sur la suite des événements. Nous irons aussi au Mexique auprès de femmes qui tentent d'aider les dizaines de milliers de migrants qui passent devant chez elles, tentant de s'accrocher au train qui mène vers le nord, vers les États-Unis. Les États-Unis d'ailleurs, reportage à suivre à Los Angeles, toujours entouré par les flammes. Il y a 10 morts, plus de 9000 maisons et bâtiments détruits et beaucoup de colère chez les habitants qui ont tout perdu dans les incendies hors normes des derniers jours.
La sévérité de ces feux aurait pu être évitée de mon point de vue. Écoutez, c'est impossible d'arrêter tous les feux de forêt. Mais il n'y a eu aucun effort de prévention et il n'y a eu aucun plan stratégique pour des pare-feux. Je ne comprends pas. Ils connaissaient les dangers de cet épisode venteux et personne n'avait de plan apparemment. Il y aura un prix politique à payer pour ça.
Nous ferons le point dans le prochain journal, dans une demi-heure maintenant. Voilà pour le programme. Bienvenue.
RFI Midi, l'Europe à midi.
Et pour commencer donc, comme chaque jour, l'actualité en Europe, on va parler de ces dizaines de milliers de personnes rassemblées hier en Autriche pour dire non à un gouvernement mené sous la houlette de l'extrême droite. Pourtant, c'est ce qui se dessine. Le FPE a été chargé au début de la semaine de former une équipe, de négocier avec les conservateurs. Et c'est la première fois que ce mouvement, créé par d'anciens nazis, se trouve dans une telle position de force. Reportage auprès des protestataires de notre correspondante Isorias.
La lumière de leur téléphone pointée sur la chancellerie, des milliers d'Autrichiens font entendre leur mécontentement, des huées pour dire non à l'extrême droite, dont Véronica, jeune retraitée, dénonce la normalisation en Autriche.
Je trouve très dangereux de voir que dans notre société, l'extrémisme de droite est désormais au centre. Plus personne n'a honte, les gens s'habituent si vite. J'ai peur pour notre démocratie, je ne veux pas que les choses se passent comme en Hongrie.
L'extrême droite a déjà participé à des gouvernements, mais jamais en tant que partenaire majoritaire. Les choses seraient différentes cette fois-ci, car le FPE est en position de force, ce qui inquiète grandement Inès, étudiante.
Je crois que de nombreuses libertés individuelles sont menacées. C'est le cas pour les personnes de la communauté LGBTQ, pour toutes les personnes issues de l'immigration, pour les femmes, mais aussi pour tous les groupes sociaux défavorisés.
Autre motif d'inquiétude pour les manifestants comme Félix, le profil très radical d'Herbert Kickl, le chef du FPE, qui pourrait accéder à la chancellerie.
Kickl a parlé de garder les réfugiés dans des centres de manière concentrée, rappelant ainsi l'un des chapitres les plus terribles de notre histoire. Quelqu'un qui est prêt à polariser de la sorte, à provoquer avec de tels mots, est, je crois, prêt à beaucoup de choses.
Les Autrichiens présents se disent prêts à manifester à nouveau ces prochains jours pour faire pression et empêcher un gouvernement entre conservateurs et extrême droite. Isorias, Vienne, RFI.
Une normalisation de l'extrême droite en Autriche, la peur de milliers de personnes. Bonjour Thomas Karabacek.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'agence de presse autrichienne APA, Austria Press Agentur. Est-ce qu'aujourd'hui il est possible encore d'éviter un gouvernement entre le FPE et les conservateurs, comme l'espèrent les manifestants qu'on vient d'entendre?
Alors je crois que, en tout cas, ce ne seront pas les manifestants qui vont empêcher cette coalition. Si jamais la partie FPE et la partie UVP, les conservateurs, arrivent à un programme ensemble, ils vont former le gouvernement. Je voudrais tout simplement, pour mettre en contexte, hier il y avait entre 25 et 50 000 personnes, selon les sources, qui protestaient, mais en 1999, il y en avait 150 000.
Donc il y a quand même une normalisation de l'extrême droite.
Sans doute, ils ont reçu 29% de la vote. Et évidemment, il y a une grande partie de la population qui trouve que ce serait bien, sinon normal, mais bien que ce parti forme le gouvernement.
29%, vous nous l'avez rappelé aux dernières législatives, le FPE est arrivé en tête. Il est inévitable pour ça, d'une part, mais aussi parce que les partis qui voulaient lui faire barrage à ce moment-là, en fait, n'ont pas réussi à former un gouvernement de blocage.
C'est exact. Les deux autres moyens partis qui auraient pu former un gouvernement n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un programme, ce qui est normal car l'une est gauchiste et l'autre est plutôt droite. Ils étaient très très loin l'un de l'autre déjà au début et ils n'ont pas pu faire un compromis.
Le parti FPE a déjà participé au pouvoir, jamais en étant comme là en première ligne. Mais je voulais vous demander, est-ce que pendant ces années de gouvernement, le FPE avait un peu édulcoré certaines de ses positions ?
Je crains personnellement que le parti FPE est devenu même un peu plus radical, dans le sens que maintenant ils sentent que pour la première fois ils sont dans la mesure de pouvoir vraiment imposer leur idée. La ÖVP, qui n'a pas pu former une coalition avec les social-démocrates, maintenant est dans la position de n'avoir plus aucun moyen de pression contre la FPE. Et alors, je crois que la FPE se sent très à l'aise et très sûre de soi de pouvoir vraiment imposer ses idées.
Parmi les manifestants qu'on a entendus, certains disaient craindre une dérive sur le modèle de la Hongrie de Viktor Orban. Est-ce que, selon vous, un glissement autoritaire comme celui-là serait effectivement possible en Autriche ou bien est-ce que le pays dispose de garde-fous suffisants ?
Bon, la très grande différence, c'est que la FPE a 29%, pas une majorité, et très très loin des deux tiers pour changer la constitution. En Hongrie, M. Orban pouvait changer la constitution. Ça, c'est vraiment une très très grande différence. Et même la coalition entre la FPE et la ÖVP, qui est en train de se former, n'aura pas les deux tiers. Alors, ne pourra pas changer la constitution. Dans ce sens, je crois qu'il y aura dans les moyens qui existent déjà, sans doute un mouvement vers le droit, mais pas un changement fondamental des institutions.
Je vous remercie Thomas Karabacek d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'agence de presse autrichienne Austria Presse Agentur. Merci. Cette influence de l'extrême droite et du populisme, elle grandit en Europe, dans de nombreux pays et notamment en Croatie, où se tiendra dimanche le second tour de la présidentielle. Sauf surprise, Zoran Milanovic devrait être réélu pour un deuxième mandat. Il est notre Européen de la semaine. Cet ancien fonctionnaire ayant travaillé pour les Nations Unies, pour l'Union Européenne ou encore pour l'OTAN, mais qui aujourd'hui tient un discours très virulent contre toutes ces institutions. On le présente même parfois comme pro-russe. Et son style lui a valu aussi le surnom de Trump des Balkans. En fait, Romain Lemaresquier, Zoran Milanovic est beaucoup plus que ça.
Oui, Zoran Milanovic est tout sauf un inconnu, en tout cas dans les Balkans. Ce juriste de formation, né en 1966 à Zagreb, qui brigue un second mandat présidentiel, avait par exemple déjà dirigé le pays en tant que Premier ministre entre 2011 et 2016. À l'époque, à la tête du Parti social-démocrate, il avait mené une politique de gauche. Il avait alors des positions modérées et plutôt progressistes, même s'il était accusé par l'aile gauche de son parti de mener une politique économique trop libérale. Mais comme l'explique Romain Le Quignou, directeur général d'Eurocreative, un think tank sur l'Europe centrale et orientale, ce Milanovic-là n'est pas celui qui a pris la présidence du pays en 2020.
Monsieur Milanovic a réussi à être élu président de la République et a changé de discours. Il disait qu'il voulait être un président avec de l'attitude. Et finalement, il a gardé cette ambition, essayé d'être un président qui dit ce qu'il pense, qui parle franchement, qui n'a pas peur des outrances, qui n'a pas peur de dire la vérité. Un président un petit peu anti-système. Mais on n'a pas forcément compris que c'était un virage que Monsieur Milanovic n'avait pas utilisé forcément seulement pour gagner cette présidentielle en 2020, mais qu'il utilisait cette position pour rester au pouvoir également.
Élu pour un premier mandat en 2020, il devient alors le premier opposant du gouvernement d'Andrei Plenković, membre du HDZ, l'Union démocratique croate, formation de droite, qui gouverne de manière presque continue le pays depuis l'indépendance en 1991. Zoran Milanović s'oppose aux restrictions mises en place pendant la pandémie, s'oppose à l'aide militaire à l'Ukraine, soutient des positions russes, critique l'OTAN et l'Union européenne.
Des positions qui ne sont pas forcément partagées par ses compatriotes.
Oui, mais des positions qui ont eu leur effet. Florian Bieber, politologue et spécialiste des Balkans.
La majorité des Croates n'est pas pro-russe, donc je crois que les gens le soutiennent, Milanović, plutôt pour le fait qu'il est populiste, plutôt pour le fait qu'il dise les choses comme il pense. Donc il a un peu cette image d'être quelqu'un qui n'a aucune réservation de dire ce qu'il pense.
Alors cette liberté de ton plaît aux Croates et Zoran Milanović est devenu maître en la matière. Il faut dire qu'aujourd'hui, comme le détaille l'historien et spécialiste des Balkans Joseph Krulić, c'est le seul pouvoir que détient le président croate.
Depuis une réforme constitutionnelle de juillet 2001, le président croate, bien qu'il ait le suffrage universel depuis 1992, n'a en gros aucun pouvoir exécutif. Donc il est relativement paralysé, mais il a le ministère de la parole et il se le permet notamment en politique extérieure.
Mais il n'y a pas que cette liberté de ton qui plaît aux Croates. Romain, ils veulent aussi éviter une concentration des pouvoirs.
Oui, et la présence de Zoran Milanović à la tête de la République permet de bénéficier en quelque sorte d'un contre-pouvoir face au gouvernement conservateur d'Andrei Plenković, un gouvernement qui soutient l'Ukraine, qui est en phase avec l'Union européenne et l'OTAN. Bref, tout l'inverse des positions de Zoran Milanović, qui pourtant bénéficie de nombreux soutiens dans la classe politique croate. Florian Bieber.
Il a gagné beaucoup de soutien à cause de sa critique très forte du gouvernement actuel et spécialement du Premier ministre Andrei Plenković. Donc comme ça, on peut être sûr qu'il va encore renforcer cette critique du gouvernement. Et donc comme ça, on peut attendre beaucoup de batailles entre lui et le gouvernement actuel. Et ça ne va pas limiter sur le domaine extérieur, mais aussi sur la politique intérieure.
Alors Zoran Milanović devrait en toute logique être reconduit à la tête de la République croate pour les 5 ans à venir. 5 ans de bras de fer avec le gouvernement, mais aussi avec l'OTAN et l'Union européenne. En somme, un mandat qui s'inscrit dans la continuité pour celui que l'on surnomme le Trump des Balkans.
Zoran Milanović, notre Européen de la semaine. Merci Romain Lemaresquier.
RFI Midi, Anne Cantner.
Un coup d'œil à la presse européenne. En Espagne, El País se préoccupe des chaleurs records observées en 2024. Plus 1,5 degré pour la toute première fois, ce seuil symbolique que l'accord de Paris de 2015 voulait absolument éviter. Le futur est entre nos mains, avertit le quotidien en reprenant les mots du patron de l'Observatoire européen, Copernicus. En Allemagne, Die Zeit revient sur l'échange entre la dirigeante du parti d'extrême droite AfD et Elon Musk, qui s'affiche décidément partout en ce moment et distribue bons et mauvais points aux dirigeants européens. 75 minutes sur X, mémorables et parfois embarrassantes selon le journal. Et soudain, écrit un autre quotidien, Die Welt, il est question de Dieu, de Mars et d'Hitler. Et la chef de l'AfD peut diffuser sans être contredite de fausses affirmations sur le national-socialisme. Elon Musk, toujours lui, et ses liens troubles avec l'extrême droite sont aussi pointés du doigt par The Independent. Le quotidien britannique nous apprend que Nigel Farage et d'autres députés de son parti ont reçu des milliers de dollars de la part de X ces derniers mois, après avoir monétisé leur compte sur ce réseau social. Une alliance impie entre l'extrême droite et Elon Musk, selon le quotidien britannique. Enfin, en Suisse comme en France, la grippe circule et elle contribue à surcharger les hôpitaux, titre le quotidien Le Temps. Côté français, les hôpitaux sont même débordés, écrit Le Parisien, au point que 87 établissements ont dû déclencher ce qu'on appelle le plan blanc. Il permet, entre autres, de déprogrammer certaines interventions ou encore de rappeler le personnel en congé.
RFI à Bilbao, 97.5 FM.
Reportage en Espagne. Le pays va commémorer tout au long de l'année la mort du dictateur Franco. Les événements ont commencé cette semaine en présence du Premier ministre de gauche, car ce sont les socialistes qui ont poussé pour cette série d'actes commémoratifs. Pour ne pas oublier d'où vient le pays. Mais la droite refuse d'y participer. Quant au roi, il semble plutôt embarrassé par la question. Et cela montre bien, François Musso, à quel point la figure de Franco demeure problématique en Espagne.
Nous sommes devant le musée Reina Sofia au cœur de Madrid. Des camions de police font barrage face à des dizaines de manifestants en colère. On peut entendre « gouvernement démission » ou bien « Pedro Sanchez communiste ». De façon évidente, ce sont là des nostalgiques de Franco, le chef d'État de l'ancien régime, mort en 1975. C'est le cas de José Manuel, industriel à la retraite.
Je suis un fils de l'après-guerre. Je suis né en 1941 et j'ai vécu avec Franco. C'était une dictature, c'est indéniable. Mais lui avait quelque chose que les dirigeants actuels n'ont pas. Il aimait l'Espagne.
À l'intérieur du musée, dans l'immense auditorium, le chef du gouvernement Pedro Sanchez défend précisément ces actes commémoratifs de la mort du dictateur en faisant un clin d'œil à l'actualité des populismes d'extrême droite en vogue.
Il est facile d'oublier les forces de la démocratie et de se laisser séduire par ceux qui promettent aux gens ordre, sécurité et richesse.
À ses yeux, commémorer la mort du caudillo Franco, qui a causé tant de malheurs aux Espagnols, a-t-il dit, cela revient, un demi-siècle plus tard, à célébrer la démocratie, ses acquis, ses avancées sociales. En clair, il n'y aurait pas de revanchisme dans ces actes commémoratifs qui s'étaleront tout au long de l'année 2025 avec des expositions, des documentaires, des colloques, des conférences. Pour autant, certains partisans de gauche ne cachent pas leur satisfaction d'exprimer leur haine envers le dictateur. Carlos, ingénieur ferroviaire à la retraite, fait partie de ceux-ci.
Pour moi, c'est la célébration de la mort de Franco, mais alors sans aucun doute. Moi-même, j'ai fêté l'événement en 1975 avec beaucoup de champagne.
Ce qui anime la controverse, c'est qu'une bonne partie de l'Espagne tourne le dos à cette initiative ambitieuse. Principalement, l'électorat de droite, libéral, conservateur et bien sûr l'extrême droite, le parti Vox, troisième force au Parlement, qui revendique même la figure de Franco. À gauche, on ne comprend pas pourquoi la droite modérée refuse de participer à ces commémorations, ou on croit trop bien le comprendre, comme Ángeles, fonctionnaire.
Ce sont des irresponsables. Ils continuent de l'être 50 ans plus tard. Ce ne sont pas des démocrates réellement. Ils s'appellent démocrates et s'habillent comme des démocrates, mais ils ne le sont pas. Ils ne tolèrent pas la liberté.
Toujours est-il qu'on observe une fracture radicale, ceux qui appuient l'initiative enthousiaste et ceux qui la rejettent dédaigneux. Le grand parti de droite, le Parti populaire, affirme que la seule motivation de Pedro Sanchez est de tenter de faire diversion pour ne pas parler des scandales judiciaires qui le touchent lui, son entourage et son parti. Elias Bendodo, porte-parole du Parti populaire, ne mâche pas ses mots.
Ni Franco ni aucun autre écran de fumée ne peuvent dissimuler les scandales qui menacent Pedro Sanchez et son entourage.
Pour comprendre ce malaise général, il faut avoir présent à l'esprit que la figure de Franco est problématique. En partie, cela est dû au fait qu'il a gagné une guerre civile, qu'il est resté très longtemps au pouvoir, 4 décennies, et qu'il est mort de manière naturelle, comme le rappelle l'analyste Cristina de Laos.
Il est vrai que Franco est mort dans son lit intubé. On a tous vu ces images. Il n'est pas tombé en raison d'un mouvement populaire et il n'est pas tombé à cause d'une pression internationale.
D'une certaine manière, invoquer la figure de Franco est en soi une matière à confrontation. Le politologue Pablo Simón l'explique de cette façon.
Il est quelque peu difficile de comprendre que le gouvernement ait déployé tant d'efforts autour de cette année 2025 et autour de la figure du dictateur, alors même qu'il existe de nombreuses dates beaucoup plus significatives. En 1976, avec la loi de la réforme politique, en 1977, les premières élections libres, en 1978, la Constitution et en 1979, les deuxièmes élections.
Pour lui et pour beaucoup, le gouvernement de gauche ne se limite pas à organiser des hommages institutionnels en faveur de la démocratie, il tente aussi de tirer un bénéfice politique de ces commémorations.
Pour le gouvernement actuel, il y a un intérêt politique, faire en sorte que cet événement occupe tout l'agenda. Et à mon avis, c'est une vision à court terme qui suscite une vive opposition.
Avec ses actes commémoratifs, Pedro Sanchez aura réussi à créer la polémique et à mobiliser les siens. Mais il est loin d'être sûr que cela renforce son pouvoir de plus en plus fragile. François Musso, Madrid RFI.
À Madrid, il est midi et 49 minutes.
RFI midi. Un monde de tech.
On va prendre un peu d'avance sur le calendrier avec vous, Dominique Dezonnet, puisque vous nous parlez du salon Museum Connections qui ouvrira ses portes la semaine prochaine à Paris. L'ambition, c'est la même que depuis les débuts il y a 25 ans, explorer les dernières innovations et exposer aussi les enjeux économiques et durables des musées ou autres lieux culturels.
Oui, casque de réalité augmentée pour voyager dans l'espace ou le temps dans un lieu patrimonial, des IA génératives pour entamer, des discussions avec un tableau ou encore le développement de dispositifs de vidéoprojection pour sublimer en 3D des monuments historiques. Le Salon International Museum Connection présente ainsi le meilleur de la création numérique au service des musées, du patrimoine et bien sûr du grand public, nous précise Antoine Roland, expert nouvelles technologies pour Museum Connection et fondateur de l'agence de création numérique Correspondance Digitale.
Museum Connection, c'est un salon qui existe depuis de nombreuses années, qui font la part belle effectivement à la créativité numérique européenne. La première, c'est l'IA qui permet plus d'interactivité, notamment une entreprise belge, Minlin Learn Machine, qui a développé une collaboration avec les musées des Beaux-Arts de Gand et qui permet aux visiteurs de rentrer en dialogue avec des œuvres.
Bonjour madame, qu'est-ce que vous lisez ?
Bonjour, en ce moment, je lis un recueil de poèmes de Baudelaire.
Merci madame, bon après-midi.
Je vous en prie.
Sur la restitution, je pense à une boîte lettonienne, en fait, qui s'appelle VR History, qui propose en fait de reconstituer Tallinn en 1939 et en 1945 pour voir comment la ville a été marquée par les bombardements et par le conflit de la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce qui marche le mieux, c'est ce qui est le mieux intégré en fait dans un lieu physique.
Ça met vraiment en valeur l'église.
Il y a un travail de dingue.
Et je pense que chaque personne a son spectacle, en fait.
C'est un lieu incroyable que je ne connaissais pas. Et il a été super bien mis en valeur par le mapping, donc trop bien.
Énormément d'artistes travaillent autour du vidéomapping, de la projection sur les monuments, du côté de Prague, du côté de la Hongrie. Et puis sur tout ce qui est intelligence artificielle, on commence à voir poindre de nouvelles sociétés qui viennent aussi bien de Belgique que de France ou d'Espagne et qui développent des projets autour de l'intelligence artificielle.
Confiance. Juste écoutez.
Les projections sur les bâtiments, les projets dits son et lumière, on en voit de plus en plus dans les musées ou sur les sites touristiques, Dominique.
Effectivement, c'est le cas d'ailleurs de ce conte philosophique et poétique intitulé Immersia, qui sublime l'architecture de Notre-Dame de Bonport à Nantes. Un exemple parmi tant d'autres de ces spectacles immersifs monumentaux qui intègrent de nouveaux outils high-tech, souvent associés à la puissance de l'IA, pour générer des torrents d'émotions chez les visiteurs dans les musées ou les lieux patrimoniaux du monde entier.
Dominique Dezonnet pour notre monde de tech.
RFI Midi. RFI à Saint-Domingue, 90.9 FM.
Rencontre maintenant avec une personnalité du monde de la culture. Aujourd'hui, l'écrivaine Marie-Reine de Jam. Elle publie la suite de son roman à succès, La Grande Becquée, qui raconte le parcours d'une descendante de colons français en Martinique au siècle dernier. Cette fois, on suit l'arrière-petite-fille de cette femme, Garance, qui, elle, va s'affranchir de ses origines. L'autrice parle de ce nouveau livre, L'héritière de la Grande Becquée, au micro de Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour Marie-Reine de Jam.
Bonjour Catherine.
Pourquoi avez-vous eu envie d'écrire cette nouvelle suite à La Grande Becquée ?
Parce que je voulais aborder la différence qu'il y a entre les Antilles de ma jeunesse avec les problèmes de maintenant. Et je vois les Antilles, la Martinique particulièrement, qui est mon pays, comme un microcosme de ce qui se passe dans le monde. On est au confluent de trois continents, l'Amérique, l'Europe et l'Afrique. Et tout ce qui arrive dans le monde se focalise sur la Martinique et assimilé, digéré, repensé. Et ce phénomène m'intéressait énormément de voir comment tout cela est perçu aux Antilles et quel va être le destin de ces petites îles-là dans le grand destin du monde. Bon, ça c'est le côté un peu globaliste que je raconte, mais le côté intime, c'est les Becquées. Qu'est-ce que c'était quand j'étais petite et maintenant, qu'est-ce que ça devient, quel est l'avenir? Et puis, la jeune génération, la génération montante, que va-t-elle devenir? Et Garance est une personne qui a connu les deux. Elle fait le lien entre autrefois et aujourd'hui. Parce que Garance, c'est cosmopolite, c'est New York, c'est Paris. Elle va faire la même trajectoire que moi. Vous savez, on écrit toujours d'après ce qu'on a vécu. C'est ça qui fait la vérité de ce qu'on écrit, en fait.
Et plus je vous écoute, Marie-Reine de Jam, plus j'entends que Garance et vous avez beaucoup de points communs. Parce que comme Garance, donc, vous avez épousé un homme de votre milieu, comme s'il était impossible d'échapper à ses origines.
Oui, oui, c'est vrai. C'était très difficile d'échapper à ses origines. On était enfermés dans une île paradisiaque et grisée de parfums, de sons, de fêtes. Nous autres Becquées, à l'époque. Mais pour quelqu'un qui voulait découvrir le monde et conquérir le monde comme Garance, c'était une mutilation, en fait. Donc, Garance et moi-même, nous sommes sentis libérés de pouvoir enfin partir et à New York. J'ai fait comme les Noirs de la Martinique, j'ai explosé. J'ai découvert tout, tout était permis, et je me suis permis tout, et ça a marché finalement.
L'héritière de la Grande Béquée, comme la plupart de vos romans, est irriguée de langue créole. Les dialogues sont en créole. Pourquoi c'est si important pour vous ?
Mais je ne dis pas que c'est important, j'adore faire ça.
Parce que c'est votre langue d'une certaine façon,
ça me vient naturellement. Et le créole est savoureux. Il vient des tripes, quoi. Il n'est pas littéraire, il est de la terre, il est plein d'humour. Non, il faudrait que je cherche beaucoup mes mots pour pouvoir donner une définition exacte du créole. Mais c'est unique. C'est comme... Ce que vous me demandez là, c'est de décrire mes gènes, quoi.
Merci beaucoup, Marie-Reine de Jam, d'être venue nous parler de ce nouveau roman que vous publiez, L'héritière de la Grande Béquée, qui paraît chez Caraïbes Éditions.
Merci à vous.
Et vous pourrez écouter tout à l'heure un entretien plus long entre Marie-Reine de Jam et Catherine Fruchon-Toussaint dans l'émission Littérature sans frontières à partir de 13h30, temps universel. Avant cela, midi et demi, toujours en temps universel, Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner.
Vous nous parlerez tout à l'heure.
Le Bénin, l'émotion après l'attaque qui a visé mercredi une position de l'armée dans le nord, dans la zone dite du triple point. 28 soldats ont été tués. Pas de communication officielle, mais de nombreuses réactions dans la classe politique. Et puis cette nouvelle poussée de tension entre Alger et Paris après le renvoi en France d'un influenceur algérien qui venait d'être expulsé, inacceptable pour le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui dénonce une volonté d'humiliation de la France par l'Algérie.
A tout à l'heure Nicolas Sûr, on vous retrouve dans un peu plus d'une demi-heure. La suite sur RFI, dans quelques minutes ce sera le journal et d'abord un peu de musique.
High life. Aïe. Aïe. Vraiment.
Vous l'aurez peut-être déjà reconnu, celui qui ravive la femme du High Life, K.O.J. avec ce titre, Foriwa, à écouter en ce moment dans la playlist RFI.
RFI Midi.
Écoutez en ce moment dans la playlist RFI. Vous restez avec nous, on se retrouve dans 30 secondes pour le journal.
BPM. Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Cette semaine, dans notre Selecta, il y a l'un des héros indiens de la musique punjabi actuelle, des chants de prisonniers du Malawi et du Mississippi, et l'album d'un artiste portoricain qui, à peine sorti, est d'ores et déjà qualifié de classique. Ça va groover !
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol. Tous les dimanches à 14h10 TU sur RFI.